Eh bien, bonjour à tous. Et avant d'introduire ce travail, je tiens bien évidemment à remercier l'IPSEM par la qualité de son accueil, de son organisation. Étant très nouveau dans le réseau, je suis très surpris des personnes qu'il y a et de l'intérêt qui est porté à l'éducation thérapeutique. Je tiens aussi à remercier bien évidemment Rémi Gagnère qui a fait l'honneur de m'inviter. Et puis, je tiens également à remercier Monsieur Paquito Patidou, je prononce mal son mot, qui est un spécialiste de l'obésité chez les cucurbitacées et qui va intervenir tout au long de la journée. Et je suppose que ses interventions seront tout à fait lumineuses et vous surprendront plus d'une fois. Pour en venir à notre sujet d'intervention, la question de la réflexion épistémologique, c'est un mot barbare, mais j'essaierai quand même de le définir, est au cœur de nos pratiques, même si nous n'en savons absolument rien, comme c'est d'ailleurs au cœur de notre société, même si nous n'en savons pas grand-chose non plus. Plus précisément, au niveau de l'éducation thérapeutique, il y a au moins deux points, peut-être qu'il y en aurait bien plus, mais deux points sur lesquels cette réflexion mérite d'être portée. Le premier point, c'est que bien évidemment, l'éducation thérapeutique concerne des professionnels de santé d'origine différente, et le dialogue entre disciplines est toujours un véritable problème. Alors bien évidemment, ce dialogue a déjà quelques éléments de réponse, mais qu'il faudrait pouvoir véritablement approfondir, c'est ce qu'on appelle le dialogue pluridisciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Je ne vais pas parler de toutes ces nuances dans mon intervention, parce que, bien sûr, le cadre n'est pas approprié. Mais c'est un premier point de réflexion, et la réflexion tous les cas transdisciplinaire permettrait de réarticuler ce dialogue, sans doute avec un peu plus de pertinence. Précisément parce que la transdisciplinarité va renvoyer au deuxième point, qui est aussi un point de contradiction dans les pratiques d'éducation thérapeutique, c'est la relation entre le sujet et l'objet. Dans le mot transdisciplinarité, vous avez trans et disciplinarité. Disciplinarité, en allant au plus court, renvoie à des problématiques liées à l'objet, mais qu'est-ce qui est au-delà et au travers des disciplines, si ce n'est le sujet lui-même? Et donc la question de la transdisciplinarité, c'est en fait de pouvoir articuler ces relations du sujet et de l'objet. Et c'est vraiment la problématique de l'éducation thérapeutique, puisqu'il y a d'un côté des normes médicales qui sont à respecter, c'est le côté très objectif des choses, mais en parallèle, il faut pouvoir dynamiser l'autonomie, la responsabilité des patients dans un système de soins qui pourtant est complètement contradictoire, dans la mesure où l'objectivité scientifique pousse systématiquement à désubjectiviser, c'est-à-dire le sujet est toujours suspect dans la science. Donc sa finalité à la science est toujours de supprimer le sujet pour être reproductible. Or, notre problème à nous, c'est précisément de le réintroduire. Donc vous voyez les contradictions qu'il y a dès le départ, et vouloir rester dans un système biomédical dans le champ de l'éducation thérapeutique est un contresens, parce que le sujet n'y a pas sa place. Et pour ça, il faut justement réfléchir sur cette question de l'épistémologie, c'est-à-dire comment est produite une science. Alors, s'engager dans cette direction va demander précisément de dépasser le cadre intuitif que la plupart des professionnels de santé mettent en place dans ces pratiques d'éducation thérapeutique. Et il faut apprendre vraiment à changer son regard sur le système de soins, sur l'organisation des soins. Il faut aussi sortir des cadres acquis par nos formations, qui sont des cadres certes qui nous sécurisent, mais qui peuvent également se révéler inadaptés, répétitifs, rigides. Il faut créer ce dialogue entre les disciplines. Il faut donc articuler ces impératifs médicaux et le respect des personnes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir passer d'une épistémologie de l'objet, celle que nous avons dans la science médicale actuellement, ou dans la science tout court, à une épistémologie non pas tant du sujet, mais justement des relations entre le sujet et l'objet. Donc répondre à ces questionnements va nous demander une réflexion d'ordre épistémologique. Tout d'abord, je vous le disais, que nous en ayons conscience ou pas, l'épistémologie n'est pas qu'un enjeu philosophique. Le mot est en fait plutôt venu des philosophes. Hein. Épistémé, c'est le grec. Alors ça renvoie à Platon, Socrate, etc. Mais ça n'a pas qu'une portée philosophique, c'est-à-dire c'est une façon d'être un empêcheur de penser en rond, l'épistémologie. C'est de comprendre comment un système de pensée fonctionne, comment par exemple la science fonctionne, en sachant que cette vision est vraie, mais qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et ça envahit en permanence, bien sûr, nos vies, indépendamment, bien sûr, de l'éducation thérapeutique, parce que, sans aller dans des catégorisations particulières, mais, je sais pas, la vache folle, le veau aux hormones, ou je sais pas trop, mais c'est purement caricatural ce que je dis, ce sont des enjeux épistémologiques. C'est une façon de voir le monde qui est productrice, là, c'est pour le pire. Également, quand on voit, bien sûr, les résultats positif et extraordinaire parfois du système de santé, bon là on en a bien sûr des effets tout à fait valorisants. Alors le mot épistémologie signifie étymologiquement qu'il y a une réflexion et un discours sur la science. Épistémé, c'est la science, enfin, il y a deux mots en grec, épistémé et gnosis, mais c'est un discours sur la science. Et l'épistémologie va énoncer la façon dont les humains que nous sommes vont produire de la connaissance. Mais cette production présume toujours d'une certaine posture, d'un certain regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité en soi, c'est ce que malheureusement dans la pensée unique dans laquelle nous sommes actuellement, c'est ce qu'on veut bien nous laisser croire. Il y a toujours au départ d'une création de connaissances un postulat qui est invérifiable, c'est ce qu'on appelle des principes gnoséologiques, qui ne demande pas donc à être vérifié. C'est à partir de ce point de vue, on dit voilà, pour connaître la réalité, je me place d'une certaine façon. Cette façon de se positionner n'est pas discutable, mais on sait qu'il peut y en avoir d'autres. Et à partir de cette façon de penser, de voir le réel, on va pouvoir mettre en place des méthodologies, bien sûr, adéquates. Mais en même temps, bien sûr, la richesse et les limites de cette façon de procéder sont incluses dans les principes de base. Donc il faut revenir à ces principes de base, c'est ce que je vais essayer de faire très succinctement aujourd'hui, pour comprendre comment le système médical fonctionne et comment éventuellement nous sommes nous aussi en contradiction par rapport à ce système, et qu'il est impératif, encore une fois, de changer de méthode de réflexion si l'on veut véritablement rester cohérent avec nous-mêmes. Alors, à partir de ça, bien évidemment, si on revient au champ de l'éducation thérapeutique en lui-même, l'éducation thérapeutique, par son objet même, va déstabiliser la connaissance scientifique. Parce qu'encore une fois, par le simple fait de réintroduire le sujet, le patient, la personne, voire le soignant, dans la science, il va y avoir contradiction flagrante avec la méthodologie scientifique elle-même. Là, par exemple, où la science va réduire et clôturer ses champs disciplinaires, nous sommes, nous, vous le voyez bien, enclins à les ouvrir. Là où elle chasse le sujet en faveur de l'objectivité, nous le reconnaissons comme faisant partie prenante de sa santé. Donc, quels sont, à partir de là, les choix ? Est-ce qu'il s'agit de réduire pour analyser, de penser globalement pour appréhender les liens ? Est-ce qu'il faut valoriser une attitude strictement objective, le respect de normes ? Est-ce qu'il faut au contraire tenir compte d'une posture plus subjective, intégrer cette posture subjective dans nos connaissances et dans cette production de connaissances? Et donc vous voyez que prendre un parti, c'est-à-dire déterminer qu'on va choisir le côté objectivité ou pas, c'est en fait faire de l'épistémologie. D'où encore une fois cette l'importance pour moi de ce mot. Quand on regarde un petit peu plus en aval maintenant l'éducation thérapeutique, on s'aperçoit qu'elle repose sur en fait différents modèles d'intervention, qui souvent d'ailleurs se mélangent un peu les uns les autres. Il y a bien sûr, parce que c'est une référence de base, hein, c'est l'éducation thérapeutique d'abord c'est de la médecine, il y a bien sûr donc le modèle biomédical classique. Alors ce modèle, là aussi ce serait très long d'en parler, mais c'est quand même très interpellant, c'est-à-dire que les références, les normes médicales reposent sur la maladie, non pas sur la santé. C'est ce qu'on appelle dans les champs, disons plus d'anthropologie médicale, un modèle de santé négative. Donc les normes renvoient à la maladie. D'autre part, il y a d'autres modèles. Il y a par exemple des modèles qui sont des modèles d'holistes ou écologiques, où là, par exemple, la recherche de qualité s'associe au milieu de vie, aux problèmes environnementaux. Vous avez un modèle qui est assez couramment usité, qui est le modèle de la santé communautaire. Dans ce modèle, il y a inversement justement la reconnaissance des personnes ou des groupes sociaux et leur aptitude, par exemple, à la résilience. Donc vous voyez que assez vite, en fait, on s'aperçoit que dans l'éducation thérapeutique, ces modèles sont souvent mélangés. Et que donc, il y a des... En fait, le mixage de ces modèles donne du flou, donne de la... c'est non productif, bizarrement, parce que justement, il n'y a pas en parallèle les méthodes qui vont permettre de traiter de ces flous. La méthode scientifique se réfère à la médecine, bien évidemment, et je vous disais, on va faire un tout petit peu d'épistémologie, mais on voulait pas trop, mais c'est vraiment simplement pour vous faire comprendre. Il y a ces fameux principes gnoséologiques dans des choses qui sont posées comme telles, qui ne demandent pas à être vérifiées. Il y a deux hypothèses dans la méthode scientifique, c'est l'hypothèse ontologique et l'hypothèse déterministe. Alors je vais essayer d'être très simple et très court. L'hypothèse ontologique dans la science postule que la réalité est indépendante des observateurs susceptibles de la décrire. Ça veut dire qu'une chaise est une chaise, qu'on soit là ou pas pour la voir. Hein. On peut tout à fait imaginer ça. La chaise existe. Entendez sous la chaise la maladie, les normes, ou je ne sais pas trop, hein, aussi bien sûr. L'hypothèse déterministe, pour sa part, parle de causalité antérieure. C'est-à-dire ce qui advient est créé par une cause antérieure, et aux mêmes causes, les mêmes effets. Là aussi, ça semble tout à fait logique, d'où, en sous-jacence, il en découle une recherche de reproductibilité, dans la mesure où le réel, étant objectivable et déterminé par des causes préalables, devient aussitôt vérifiable. Pour connaître, il faut également diviser pour résoudre les problèmes. Le réductionnisme, ça c'est déjà de la méthodologie, postule qu'il n'est pas possible d'appréhender l'intégralité du réel, et donc on va le découper en champs, c'est toute la base de nos universités, les différents champs disciplinaires, et on postule qu'au final, en recomposant la somme de ces parties, on va pouvoir recomposer la totalité de la connaissance. Alors ça pose des quantités de questions, en réalité, bien sûr, en sous-jacence, hein. Donc, pour connaître le tout, il suffira d'additionner les parties. Et il y a un dernier principe méthodologique, qui est un principe logique. C'est en fait une logique de base qui est celle de la raison suffisante, qui renvoie en fait à la logique aristotélicienne du tiers exclu. En deux mots, si, alors là aussi ce serait un petit peu plus compliqué que ce que je vous dis là, mais pour comprendre simplement, si une cause A, par exemple un virus grippal, si une cause A est cause de B, la grippe, on peut dire que A, c'est-à-dire le virus, est raison suffisante ou explication certaine de B, la grippe, dans la mesure où la grippe, B, ne peut être que causée par A, le virus, à l'exclusion de toute autre cause. Oui. Ça semble effectivement parfaitement logique tout ça. Et c'est vrai, ça fonctionne. Mais cette rationalité qui favorise l'objectivité critique se trouve en fait extrêmement mise à mal sitôt que l'on questionne la multiplicité des facteurs susceptibles d'interférer sur la santé et sur son éducation, en particulier sitôt que l'on doit tenir compte de la singularité des sujets ou des populations, de la pluralité des environnements et de la complexité des personnes. Le réel peut se révéler bien différent de ce que la science en dit. Enfin, le réel, il est toujours inatteignable, mais en tous les cas, ce que nous percevons du réel peut se révéler très différent de ce que la science en dit, en fonction des facteurs engagés et selon le regard porté par les personnes. Une chaise, alors, peut exister, non pas parce qu'elle est là, mais parce que quelqu'un est là pour l'observer. Après tout, qui nous dit ? Vous savez, c'est la physique quantique, l'histoire, du, je crois bien, du chat de Schrödinger. Hein. Est-ce que le chat est présent dans la boîte ou absent ? Ce sont des enjeux statistiques, mais si vous voulez, qui nous dit qu'une chaise est là si quelqu'un n'est pas là pour la voir ? Donc, vous voyez que la posture apparemment scientifique peut être tout à fait remise en question et qu'on peut apprendre à penser et à voir les choses autrement. Et cette observation de la chaise est aussi indissoluble de l'interprétation de l'observateur, parce que la chaise n'est jamais neutre à l'observateur. L'observateur va toujours lui donner un sens particulier en fonction de ses propres représentations. La recherche de causalité antérieure dans la science, elle aussi, est en partie contestable. Pourquoi dans une épidémie de grippe, par exemple, tout le monde ne tombe-t-il pas malade ? Pourquoi la vaccination ne protège-t-elle pas systématiquement tout le monde? Si en fait il n'y avait que ces causalités directes, vous voyez, après tout, on serait dans des systèmes extrêmement mécanisés, hein, on serait des automates en réalité. Donc pour connaître le réel, vous voyez, il ne suffit pas non plus d'appréhender la somme des parties, parce que l'ensemble des organes, des fonctions organiques ou de l'anatomie, je ne sais pas trop, ne pourra jamais témoigner de la totalité des relations multiples qui se situent entre les organes, entre les fonctions, entre les personnes. Cette tentation de réduire a également bien évidemment ses limites. Donc c'est le cas dans le champ de l'éducation thérapeutique avec les problèmes régulièrement complexes qui se trouvent en pratique. Et le drame, c'est que le réductionnisme scientifique, en devenant ontologique, interdit tout traitement de la complexité des personnes et toute aspiration à un processus intégrateur pourtant désiré par les professionnels de santé au-delà de tous ces éclatements. Ces contradictions montrent donc bien la nécessité d'aborder l'humain et la dynamique santé-maladie sous de nouvelles approches. Celles-ci doivent être à la fois intégratives des modèles scientifiques classiques, puisqu'il ne s'agit en aucune façon, bien évidemment, de les rejeter, de les contester, mais elles doivent également aborder de nouvelles façons de problématiser en accueillant la complexité et la contradiction au lieu de chercher à les réduire. Une relecture épistémologique qui favoriserait les liens entre l'environnement, le biologique, le psychologique, le social et même le spirituel s'impose donc, en sous-jacence également, puisque le lieu là est tout à fait adéquat, toute la question de l'art que j'ai également tout à fait à cœur, mais bon, c'est juste une parenthèse. Donc si, les enjeux actuellement, c'est en fait de pouvoir créer des ponts entre des domaines qui habituellement s'excluent les uns les autres, et ou qui ont de très grandes difficultés à dialoguer et à générer des interactions. Or, les méthodes aujourd'hui existent pour permettre ce type de pont et de dialogue. Bien évidemment, c'est ce que je vous disais au tout début de mon intervention, dans ce qu'on pourrait appeler la problématique pluri-inter et transdisciplinaire, mais également avec des enjeux qui sont des enjeux de changement paradigmatique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à changer de logique, c'était le titre de mon intervention. Alors, je ne vais pas développer les différents types de logiques, vous aurez un document qui vous montrera un petit peu quelle est ma réflexion à ce sujet. Mais ce qui est en tous les cas à bien comprendre, c'est cet impératif que nous avons à devoir changer de logique pour pouvoir problématiser en respectant cette différence entre le patient le patient dans sa subjectivité et les normes médicales que nous avons à respecter, par exemple. Au final, la valorisation d'une approche théorique et pratique liée à une vision transdisciplinaire, à la fois intégrative et respectueuse des différences, permettrait d'améliorer la qualité de prise en charge et l'efficacité des interventions. Cette nouvelle méthodologie aiderait aussi à sortir des tensions régulièrement sans solution, qui se joue entre les impératifs résultant des normes, des valeurs, la traçabilité, les recherches qualité d'une part, et la réalité des soignants, des patients et des espaces vitaux de l'autre. Enfin, le thème même de cette journée consacrée à l'innovation et à la créativité en éducation thérapeutique du patient pourrait se trouver alimenté, parce que la méthodologie transdisciplinaire qui supporte cette réflexion, par le simple fait d'articuler les interactions de l'objet et du sujet, c'est-à-dire du patient et de sa maladie, ou en tissant des relations dialectiques entre conscient et inconscient, visible et invisible, approche biomédicale et approche herméneutique, laisse systématiquement ouvert un entre-deux qui est précisément un espace qualifiant toute genèse créatrice. Je vous remercie de votre écoute.